Volume 6, Les œuvres de George Fox, livre Doctrinosi, suite aux grands Turcs et rois d'Alger, avec un post-scriptum sur la capture des Turcs par Georges Patizan et leur libération sur leur propre rivage. Cet écrit est inclus dans un groupe d'écrits adressés aux musulmans. Post-scriptum de la capture des Turcs par Georges Patizan, vers le 8 mois de 1663. Cher ami, votre lettre, je l'ai reçue. En réponse à votre demande, je vous en ai rendu compte aussi bien et aussi fidèlement que je le puis, mais quant à l'heure exacte, je ne le peux, car je n'ai pas mes livres. J'étais le compagnon de Georges Patizan, et revenant de Venise, près d'une île espagnole appelée Mayoc, nous fûmes poursuivis par un navire turc, ou Pata, comme il nous était déjà arrivé parfois, et nous pensions qu'avec la bonne marche de notre bâtiment, nous pourrions nous échapper. Mais la Providence en décida autrement, en portant trop de voiles, une partie de notre gréement céda, ce qui permit aux dix Turcs de nous rattraper et d'ordonner au maître de venir à bord, ce qu'il fit avec quatre autres hommes, me laissant moi trois hommes et un garçon à bord de notre navire. Et sitôt que nos hommes furent montés à bord du Turc, ils les firent tous sortir de la chaloupe, et environ 14 Turcs vinrent dans notre chaloupe. Tout ce temps, j'étais dans une très grande épreuve d'esprit, non tant pour moi-même, car j'avais une espérance secrète d'être secouru, mais une grande angoisse pesait sur moi pour les hommes, en ce moment même. Car toute espérance selon les apparences extérieures était alors perdue, le maître étant à bord du Turc ainsi que quatre autres, et les Turcs venant justement à bord, moi étant comme quelqu'un comme si j'étais ou n'étais pas, ne désirant du Seigneur que la patience dans une telle épreuve, et allant au bord du bâtiment pour voir les Turcs entrer, la parole de vie passa en moi, « N'aie pas peur car malgré tout cela tu n'iras pas à Alger. » Et moi, ayant auparavant fait bonne expérience de l'action du Seigneur en plusieurs occasions semblables, comme en temps de guerre, je crus ce que le Seigneur disait en moi. À cet instant, toute sorte de crainte me quitta, et je les reçus comme un homme pourrait recevoir son ami, et ils furent fort courtois. Je leur montrai donc toutes les parties du navire et ce dont il était chargé, puis je dis à ceux qui étaient nos hommes, « N'ayez pas peur car je crois que malgré tout cela nous n'irons pas à Alger, mais je vous prie, de même que vous avez bien voulu m'obéir, soyez tout aussi disposés à obéir aux Turcs. » Car en agissant ainsi, je vis que nous prenions le dessus, car lorsqu'ils virent notre grande diligence, cela les rendit négligents envers nous, je veux dire quant à nous garder. Ainsi, lorsqu'ils eurent pris quelques petites choses de notre cargaison, quelques-uns retournèrent à bord de leur propre navire, et quelques-uns restèrent avec nous, au nombre d'environ 8. Alors je me mis à penser au maître et aux quatre autres qui étaient dans le navire des Turcs, car quant à moi et aux autres avec moi, je n'avais aucune crainte, non, j'en étais si loin que je dis alors à l'un, si seulement le maître était à bord, et les autres, quand bien même il y aurait deux fois plus de Turcs, je ne les craindrais pas. Ainsi, mon ardent désir allait au Seigneur, afin qu'ils mettent dans leur cœur de le renvoyer à bord avec les autres, et le Seigneur fut bon en répondant, car ce fut comme un sceau à ce qu'il avait auparavant dit en moi. Dès que le maître fut à bord avec les autres, toute crainte me quitta quant à aller à Alger, et certains me dirent que j'étais un homme étrange, j'avais peur avant d'être pris, mais maintenant que j'avais été pris je n'avais plus peur. Je répondis, « Je crois maintenant que je n'irai pas à Alger, et si vous vous laissez conduire par moi, j'agirai pour votre délivrance aussi bien que pour la mienne. Mais je ne voyais pas encore de voie ouverte, car ils étaient tous armés et nous ne l'étions pas. Alors, étant tous ensemble, sauf le maître, je me mis à raisonner avec eux, et si nous maîtrisions les Turcs et allions à Mayoc, ce dont ils se réjouirent fort, et l'un dit, j'en tuerai un ou deux, un autre dit, je leur trancherai la gorge à autant que vous voudrez. Telle fut la réponse de nos hommes, ce qui me troubla beaucoup, et je leur dis que si je connaissais quelqu'un d'entre ceux qui proposaient de toucher un Turc, je le dirais moi-même au Turc, mais je leur dis, si vous vous laissez conduire, j'agirai pour vous, sinon, je resterai tranquille, à quoi ils consentirent de faire ce que je leur dirais. Alors dis-je, si les Turcs vous demandent de faire quoi que ce soit, faites-le sans maugréer, et avec autant de diligence et de promptitude que vous pourrez, car je vois que cela leur plaît, et cela les amènera à nous laisser ensemble, ce à quoi ils consentirent. Puis j'allai voir le maître, qui était un homme d'un esprit très hardi, et je lui fis part de nos intentions. Il me répondit que si nous tentions de nous soulever et qu'ils nous vainquissent, nous n'aurions qu'à être brûlés vifs, ce que je savais fort bien. Mais je ne pus en aucune façon l'amener à se joindre à moi, car il craignait l'effusion de sang, telle était sa raison, au point qu'enfin je lui dis que nous étions résolus, et que je ne doutais pas de le faire sans qu'une goutte de sang fût versée, et que je croyais que le Seigneur le ferait prospérer. Pour ma part, je préférais aller à Alger plutôt que de tuer un Turc. Il finit donc par consentir à ceci, me laisser faire ce que je voulais pourvu que nous n'en tuions aucun. À ce moment-là, il y avait encore deux Turcs couchés dans la cabine avec lui, de sorte qu'il devait rester couché dans la cabine, afin que par sa présence il ne soupçonnasse rien ce qu'il fit. Et comme nous eûmes mauvais temps et perdîmes la compagnie du navire de guerre, Les Turcs, voyant notre diligence, devinrent négligents à notre égard. Ainsi, la seconde nuit, après que le capitaine se fut endormi, je persuadai à l'un de coucher dans ma cabine, puis à un autre dans une autre, jusqu'à ce qu'enfin, comme il pleuvait beaucoup, je les persuadai tous de descendre dormir, et une fois endormis, je pris possession de leurs armes. Alors je dis aux hommes de notre navire, « Maintenant nous avons les Turcs à notre merci, qu'aucun ne leur fasse de mal, car si vous le faites, je serai contre vous. Mais voici ce que nous ferons, maintenant qu'ils sont dessous, nous les y maintiendrons et irons à Mayotte. » Donc, après avoir ordonné à certains de garder les portes, au cas où l'un sortirait, en leur enjoignant strictement de ne verser aucun sang, nous changeâmes de route pour Mayotte, que le matin nous longions de près. Et mon ordre à nos hommes était, si quelqu'un tente de sortir, n'en laissez sortir qu'un à la fois. Et le matin, l'un sortit, s'attendant à voir son propre pays, mais au contraire c'était Mayotte. « Maintenant, dis-je à nos hommes, veillez bien à la porte, car lorsqu'il rentrera, nous verrons ce qu'ils feront. » Et dès qu'il leur eut dit que nous allions vers Mayotte, au lieu de se soulever, ils se mirent tous à pleurer, car leur cœur leur avait été ôté. Ils demandèrent alors de ne pas être vendus, ce que je promis qu'ils ne le seraient pas. Sitôt que je les eus apaisés, j'allai voir le maître, qui ne savait pas encore ce qui s'était fait, et il dit à leur capitaine ce que nous avions fait, comment nous avions maîtrisé ces hommes et que nous allions vers Mayotte. À cette nouvelle inattendue, il pleura et pria le maître de ne pas le vendre, ce qu'il promit de ne pas faire. Puis nous dîmes au capitaine que nous leur ferions une cachette, où les Espagnols ne les trouveraient pas, ce dont ils furent très contents, et nous le fîmes. Ainsi, quand nous entrâmes au port, le maître alla à terre avec quatre autres, me laissant à bord avec les Turcs qui étaient 10. Et lorsqu'il eut fait ses affaires, il ne prit pas de produits, de peur que les Espagnols ne viennent voir les Turcs. Mais la nuit, un maître anglais monta à bord, une connaissance, et après quelque entretien, nous lui dîmes que, s'il ne nous trahissait pas, nous lui dirions ce que nous avions fait, mais que nous ne voulions pas que les Espagnols le sussent, de peur qu'ils nous les prennent, ce qu'il promit, mais qu'il rompit, et il aurait bien voulu en avoir deux ou trois pour les emmener en Angleterre. Mais nous vîmes son dessein, et quand il vit qu'il ne pouvait l'emporter, il dit qu'il valait 200 ou 300 pièces de 8 chacun, ce à quoi, le maître et moi, lui dîmes que même si on en donnait plusieurs milliers, il n'en aurait pas un seul, car nous espérions les renvoyer chez eux. Il nous regarda donc comme des fous, parce que nous ne voulions pas les vendre, ce que moi, je n'aurais pas fait pour toute l'île, mais contre toute attente, il le dit aux Espagnols, qui menacèrent de nous les prendre. Or, dès que nous la prîmes, nous fîmes sortir tous les Turcs et leur dîmes qu'ils devaient nous aider, sinon les Espagnols nous les prendraient. Ils nous aidèrent donc résolument, et nous nous hâtâmes de fuir les Espagnols, ce qui plut beaucoup aux Turcs. Ainsi, nous nous exposâmes au risque des Turcs d'être repris de nouveau pour les sauver. Ainsi, nous continuâmes environ 6 ou 7 jours, ne voulant entrer dans aucun port d'Espagne, de peur de perdre les Turcs. Nous leur laissâmes toute leur liberté pendant 4 jours, jusqu'à ce qu'ils fissent une tentative de soulèvement que j'avais prévue et que j'empêchais sans aucun mal. J'étais très courtois avec eux, ce dont certains de nos hommes murmuraient, disant que j'avais plus de soucis des Turcs que d'eux. Je répondis, « Ce sont des étrangers, je dois bien les traiter. » Enfin, je dis au maître qu'il pourrait être bon d'aller vers la côte des Turcs, car il y aurait plus de chances d'éviter leur navire de guerre que là où nous étions. Et aussi, il pourrait se faire que nous ayons l'occasion de déposer les Turcs à terre, ce à quoi le maître consentit. Et en 2 jours, nous fûmes près du rivage des Turcs, à un endroit appelé le Capone, à environ 50 000 d'Alger, comme les Turcs nous le dirent. Ainsi, lorsque nous fûmes à environ 6 000 du rivage, le vent tomba, et j'eus beaucoup de mouvements dans mon esprit quant à les mettre à terre. Enfin j'allai trouver le maître et lui dis que j'avais un grand désir de mettre les Turcs à terre, mais comment, je ne le savais pas, car si nous leur donnions la chaloupe, ils pourraient aller chercher des hommes et des armes et ainsi nous reprendre, et si nous en mettions la moitié à terre, ils soulèveraient le pays et nous surprendraient lorsque nous viendrions avec le reste. Mais s'ils voulaient me laisser y aller, et si 3 autres voulaient venir avec moi, je tenterais de les mettre à terre, ce à quoi il consentit. Alors je parlai aux hommes, et il y en eut 2 autres, et moi-même et un garçon prîmes les 10 Turcs, tous libres, dans la chaloupe, et allâmes environ 6 000 pour les mettre à terre dans leur propre pays, à environ 4 000 de 2 villes qu'ils connaissaient. En outre, nous leur donnâmes environ 50 padas de pain, et d'autres choses nécessaires pour voyager. Ils auraient bien voulu nous attirer à aller aux villes, nous disant que nous aurions du vin et bien d'autres choses. Quant à eux, j'aurais pu m'y risquer avec eux. Ils m'embrassèrent tous très affectueusement lorsqu'ils débarquèrent. Ils firent une tentative de soulèvement dans la chaloupe en allant à terre, que j'empêchai, et nous nous séparâmes avec beaucoup d'amour. Quand nous rentrâmes en Angleterre, le roi vint au bord du navire et demanda un récit, que le maître lui donna. Ainsi voilà ce que je puis vous certifier au plus près, je vous ai écrit plus au long afin de vous donner l'ensemble tel qu'il fut, mais vous pouvez retenir ce qui est le plus essentiel, et ainsi je demeure vôtre en celui qui peut rendre le bien pour le mal, ce qui devrait être la pratique de tous les vrais hommes. Thomas Lutting, Liverpool, le 30 du 5e mois, 1680. Le Quaker chrétien protestant, souffrant des reliques de la papauté, sous tous les pouvoirs, depuis 30 ans passés, qui ont persécuté pour la religion, tout en appelant les saintes écritures leurs règles, laquelle ne justifie aucune telle pratique. Par George Fox, l'apôtre exhorte les chrétiens à être conformes à l'image du Fils de Dieu, Rome 8, 29, lui qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte même de sa substance, Hébreux 3. Et plus loin, l'apôtre a dit, afin que je connaisse Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances étant rendu conforme à sa mort. Et aussi, l'apôtre exhorte l'Église, Rome 12, 2, en disant, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Or voici trois choses auxquelles tous les chrétiens doivent prendre garde. 1. Ils doivent être rendus conformes à la mort de Christ. 2. Ils doivent être conformes à l'image du Fils de Dieu, qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte même de la substance du Père. 3. Ils ne doivent pas être conformes au monde, mais être transformés hors du monde. Or, pour savoir ce que c'est d'être transformé hors du monde, et de ne pas se conformer au monde, ils doivent savoir ce qu'est le monde auquel ils ne doivent pas se conformer, mais dont ils doivent être transformés. Ce monde, l'apôtre le décrit comme la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, qui ne vient pas du Père mais du monde, et à quoi l'on ne doit donc pas se conformer, ni l'aimer mais en être transformé, car il passe avec sa convoitise. Car si quelqu'un aime le monde, dit l'apôtre, et les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 John 2, 15. Or, pour être rendu conforme à la mort de Christ, l'apôtre ne dit-il pas, s'ils sont morts avec Christ et rendus conformes à sa mort, alors ils sont morts avec Christ aux rudiments du monde, et ils ne peuvent être assujettis aux ordonnances mondaines, ni aux commandements et doctrines des hommes. Ainsi, le monde a ici ses ordonnances, ses commandements et ses doctrines, auxquelles ceux qui sont conformes à la mort de Christ, morts avec lui, ne doivent ni toucher, ni goûter, ni manier, et ainsi, ils sont conformes à l'image du Fils de Dieu, qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte même de sa substance. Or tous ceux qui se sont conformés à la mort de Christ, qui sont morts avec lui et qui sont conformes à l'image du Fils de Dieu, seule conformité que l'apôtre a prêchée. Tout cela, ne peuvent être conformes au monde, ni à la convoitise des yeux, ni à la convoitise de la chair, ni à l'orgueil de la vie. Deux, ni conformes à leur doctrine, ni aux commandements des hommes, ni aux ordonnances, ni aux traditions, non pas même les toucher, les goûter ou les manier, car tout cela périt à l'usage, dit l'apôtre. Mais leur conformité doit être à l'image du Fils de Dieu, comme les apôtres l'ont prêché. Or cette conformité au Fils de Dieu n'a jamais été soutenue ni défendue par des armes extérieures, charnelles, ni par Christ ni par ses apôtres, car Christ a dit qu'il n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Et les apôtres ont affirmé que leur guerre et leurs armes n'étaient pas charnelles, mais spirituelles, et qu'ils ne luttaient pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres et la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés, pour arracher et renverser les forteresses de Satan qu'il avait établies dans le cœur des hommes et des femmes depuis leur chute hors de Dieu. Il est donc clair que les apôtres n'ont pas prêché une conformité à l'image du Fils de Dieu par des armes charnelles. Ainsi, les apôtres qui prêchaient la conformité à l'image du Fils de Dieu et à sa mort n'ont pendu, brûlé, banni, emprisonné ni persécuté personne, ni coupé des oreilles, ni fouetté, ni dépouillé les biens d'aucun de ceux qui ne se conformaient pas à l'image du Fils de Dieu ou à sa mort. Non, ils n'ont pas emprisonné, mis à mort, ni dépouillé les biens d'aucun de ceux qui étaient conformes au monde et à ses doctrines, mais ils les ont invités, exhortés, et leur ont montré le danger s'ils ne se conformaient pas à l'image du Fils de Dieu, et ne recevaient pas sa grâce, sa lumière, son esprit, sa vérité et son évangile. Les Quakers de Nouvelle-Angleterre furent pendus et eurent les oreilles coupées par les puritains. Les Quakers dans toute la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Angleterre furent emprisonnés, tués, fouettés, battus, lapidés, dépouillés de leurs biens, le tout par des épiscopaliens, des baptistes, des presbytériens et des puritains congrégationalistes, voire persécution pour les détails. Et ceux qui ne mouraient pas avec Christ ne pouvaient vivre avec lui, et ceux qui ne souffraient pas avec lui ne pouvaient régner avec lui. Or ceux qui sont conformes à l'image du Fils de Dieu sont conformes à leur Sauveur, leur Rédempteur et Médiateur, et à la nouvelle alliance de grâce, de lumière et de vie, et au culte en esprit et en vérité, et à la véritable Église dont Christ est la tête infaillible, lui qui a détruit le diable et son image, qui est la tête de toutes les fausses images, et des fabricants d'images et de ceux qui les adorent. Et par conséquent, Il est tout à fait convenable que tous les chrétiens soient conformes à l'image de Christ, et au bonheur de cette conformité, le diable est ennemi, et Satan adversaire, et comme il est diable, il cherche à détruire tous ceux qui y sont conformes et qui portent l'image du Fils de Dieu. Et maintenant toutes les doctrines, rudiments et commandements des hommes, qu'il ne faut ni toucher ni goûter, et auxquels il ne faut donc pas se conformer mais dont il faut être transformé, ne sont que des inventions de ceux qui n'ont pas entendu la voix de Dieu et de Christ, quoiqu'ils puissent avoir toute la forme de la piété, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, et étant hors de la puissance et de l'esprit qui était en ceux qui l'ont donné, tout cela doivent être évités et non suivis, et l'on ne doit pas s'y conformer, selon la doctrine des apôtres. C'est la puissance et l'esprit de Dieu et de Christ qui amènent à s'en détourner, et qui amènent à être conformes à l'image du Fils de Dieu, et ainsi à faire sa volonté et à connaître sa doctrine qui vient d'en haut. Les doctrines, ordonnances, commandements et rudiments des hommes du monde sont d'en bas, car le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, et eux par leur sagesse voudraient amener tous les hommes à se conformer à leur image, comme celle de Nebuchadnezzar qu'il a dressée, et à se prosterner devant elle, sinon ils doivent être jetés dans sa fournaise ardente, et Daniel doit être jeté dans la fosse aux lions. Ainsi en était-il au temps de l'ancienne alliance parmi les Juifs, qui devaient se conformer à la loi de Dieu. Ils ne devaient donc pas se conformer aux ordonnances, commandements, décrets, voies et cultes des hommes du monde, tels que Nebuchadnezzar et Darius, et autres semblables, en matière de religion. Cette loi et cette ancienne alliance venue par Moïse, Christ les a abolies, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ dans sa nouvelle alliance par laquelle tous doivent entendre Christ, qui est un prophète infaillible et un prêtre infaillible, qui vit à jamais, et qui est un berger et évêque infaillible des âmes du peuple. Et à son image, tous les vrais chrétiens doivent se conformer. Depuis les jours des apôtres, combien de voies, de religions, de cultes, de fois et de credos ont été fabriqués par des hommes et des conciles, auxquels on a exigé la conformité, et pourtant ils confessent et disent qu'ils n'ont pas la même puissance ni le même esprit infaillible que les apôtres. Il est donc clair qu'ils ne sont pas guidés par le même esprit infaillible, et pourtant, de tels hommes se permettent de juger, de publier doctrine, religion, voie, culte, foi, et de juger de l'état éternel des hommes, avec leur esprit faillible qu'ils confessent avoir. Et alors toutes leurs religions, voies, cultes, foi, doctrine, credo, ordonnances et directives doivent être faillibles. Et pourtant ce sont de tels hommes qui infligent des amendes et contraignent, par des armes charnelles, les gens à se prosterner et à se conformer à leurs voies, doctrine, religion, culte, foi, credo et ordonnances et canons, tout cela par la force des armes charnelles. Et à quoi veulent-ils donc que l'on se conforme, sinon à la ressemblance ou à l'image d'une voie, d'une religion, d'une foi et d'un culte qui n'est pas établi par le même esprit infaillible et la même puissance que celle des apôtres. Et parce que les gens ne veulent pas se conformer et se prosterner devant leur image d'une foi, d'une religion, d'un culte et d'une église que leur esprit faillible a dressée, ils veulent donc bannir, fouetter, emprisonner, brûler et pendre, ou dépouiller les biens de ceux qui ne peuvent se conformer à cette image qu'ils ont. Combien d'images de religion et de voix ont été dressées depuis les jours des apôtres, et combien de sang a été versé? Et combien de brûlements, bannissements, meurtres, pendaisons et dépouillements de biens y a-t-il eu pour n'avoir pas voulu se conformer à l'image que cet esprit faillible a dressée? Car tous confessent qu'ils n'ont pas le même esprit infaillible, ni la même puissance que les apôtres, et pourtant ces soi-disant chrétiens diront que les Écritures sont leurs règles pour leur vie et leur pratique, qu'ils viennent donc à la règle et qu'ils éprouvent leur pratique par elle. Car les apôtres n'ont pas pendu, brûlé, banni ou emprisonné, ni dépouiller les biens de ceux qui n'étaient pas conformes à l'image du Fils de Dieu, mais demeuraient conformes au monde. Ils n'ont pas non plus lutté contre la chair et le sang, et les armes de leur combat étaient spirituelles et non charnelles, par lesquelles ils luttaient contre les méchancetés spirituelles, et renversaient les forteresses de Satan que lui, l'esprit immonde, avait dressées dans le cœur des hommes et des femmes. Or vous tous qui luttez contre la chair et le sang avec des armes charnelles, et qui avait pendu, brûlé, emprisonné, banni et dépouillé les biens de ceux qui ne pouvaient se conformer à l'image de vos voies, religion, foi et culte, vous qui confessez, comme il a été dit plus haut, que vous n'avez pas la même puissance ni le même esprit que les apôtres, mais qui se conforment à l'image du Fils de Dieu, déclaré dans l'Écriture du Nouveau Testament, en cette pratique, l'Écriture n'a pas été votre règle, si vous voulez croire la doctrine des apôtres et de Christ. Mais les papistes crient, conformez-vous à leur image de la messe, sinon qu'on les envoie à l'Inquisition, ou au chevalet, ou à la torture, et autres semblables. Et le Turc crie, conformez-vous à son image que Mahomet a dressée et à leur Coran. Et les empereurs païens ne criaient-ils pas, conformez-vous, et persécutez les chrétiens, parce qu'ils ne pouvaient se conformer à leurs images d'idoles qu'ils avaient dressées. Et le protestant crie, conformez-vous, sinon persécutez et emprisonnez, comme en témoignent tant de prisons. Et le presbytérien crie, Conformez-vous, conformez-vous à son image, le directoire, sinon il épandra sa potence, leur coupera les oreilles, les bannira, les fouettera et dépouillera les biens de tous ceux qui ne voudront pas se conformer, comme en témoignent les prêtres et magistrats presbytériens en Nouvelle-Angleterre. Et aussi en vieille Angleterre, ils étaient assez mauvais, eux qui criaient « Conformez-vous, conformez-vous à leur directoire ». Et pourtant ils confessent aussi qu'ils n'ont pas le même esprit, ni la même puissance que les apôtres. Et les indépendants crient « Conformez-vous, conformez-vous à leur image, leur confession de foi d'Église qu'ils ont faite au Savoie 11 jours ». Et ainsi ils voudraient que tout se conforme à leur Église, à leur voix, à leur foi et à leur culte, et entretiennent leurs prêtres, leur donnent la dîme et une subsistance. Sinon ils rempliront aussi leur prison de non-conformistes, et les y tiendront jusqu'à la mort, et ils ont fait beaucoup de veuves et d'orphelins de père. Et les anabaptistes crient « Conformez-vous, conformez-vous à leur image, et soyez de leur église sinon persécution ». Ainsi tous cela crient « Conformez-vous, conformez-vous, conformez-vous ». Mais l'apôtre a dit « Ne touchez pas, ne goûtez pas, ne maniez pas les doctrines, les ordonnances et les commandements des hommes et les rudiments du monde, mais soyez conformes à l'image du Fils de Dieu ». Et rendus conformes à sa mort, et ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés. Ainsi, quiconque parvient au pouvoir et tient le bâton de l'autorité commande aux gens de mettre dans sa bourse et de nourrir leurs prêtres de dîmes et d'une subsistance. Et les prêtres crient, la loi du pays l'exige. Mais aucune loi ni aucun commandement de Jésus ne l'exige, lui qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. N'est-ce pas l'abbé et la prostituée qui ont contraint tous les hommes, par leurs armes charnelles, à se conformer à leurs images? Mais Christ et les apôtres n'ont contraint personne, par des armes charnelles, à se conformer à son image, pas plus qu'ils n'ont dépouillé les biens de ceux qui ne voulaient pas se conformer à l'image de Christ. On ne lit pas non plus que les Juifs aient contraint aucune des nations qu'ils avaient conquises à se conformer à la loi de Dieu, mais elles vivaient sous eux comme tributaires. Mais si, de leur plein gré, elles voulaient se joindre à eux dans une soumission volontaire, elles le pouvaient. On ne lit pas non plus que le roi Abimélec ait cherché à contraindre Abraham ou Isaac à se conformer à sa religion, ni qu'Abraham ou Isaac ait cherché à le contraindre, lui ou aucun de ses sujets, à se conformer à leur Dieu et à sa loi, par des armes charnelles ou au moyen d'armes charnelles. On ne lit pas non plus que Pharaon ait cherché, par des armes charnelles, à contraindre les enfants d'Israël, qui séjournaient dans son pays, à être de sa religion. On ne lit pas non plus que Joseph, lorsqu'il eut un grand pouvoir en Égypte après le roi, ait cherché à contraindre aucun des Égyptiens à être de sa religion, ni que Pharaon ait cherché, par des armes charnelles, à le contraindre à sa religion. On ne lit pas non plus qu'aucun de ces fameux pères de l'ancien monde, de Cès à Noé, ait cherché à contraindre, par des armes charnelles, la lignée de Caïn à se conformer à leur religion. Mais tous doivent être conformes à l'image du Fils de Dieu. Christ détruit le diable et ses œuvres, lui qui est la tête de toutes les images et ressemblances fausses et faillibles, et des fausses voies, religions, doctrines, ordonnances et rudiments du monde, qu'il ne faut ni toucher, ni goûter, ni manier, et auxquels il ne faut donc pas se conformer. Car par la désobéissance d'un seul homme sont venus le péché et la mort, aboutissant à la condamnation sur tous les hommes, et ainsi par l'obéissance d'un seul homme, Christ Jésus, est venu sur tous les hommes la justification qui donne la vie. Et ainsi Christ a goûté la mort pour chaque homme, afin qu'il puisse être conforme à sa mort. Et il a éclairé tous les hommes qui viennent dans le monde, afin que par elle ils puissent parvenir à la connaissance de lui, et ainsi être conformes à son image sainte et glorieuse, lui qui brise la tête de tous les feux. Et sa grâce, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes pour les instruire, afin qu'ils renoncent à toute impiété et injustice, ainsi qu'aux convoitises du monde, et qu'ils ne s'y conforment pas, mais se conforment à l'image glorieuse du Fils de Dieu, dans sa lumière, sa grâce, sa vérité, son esprit, son évangile et la foi qui vient de lui, l'auteur de celle-ci. Et ainsi soit rendu conforme à sa mort et à son image de justice et de sainteté, et non conforme aux convoitises du monde, ni à ses vanités, ni à ses images, ni aux ressemblances de voix, culte, doctrine, ordonnance, église, foi et credo, qu'ils ont dressé par leur esprit faillible, mais conforme à l'image du Fils de Dieu, qui est la conformité universelle que doivent avoir tous les croyants en Christ Jésus, laquelle est la seule conformité infaillible dans l'esprit infaillible de Christ, qui est le rayonnement de la gloire de Dieu. Ainsi il est au-dessus de toute et vie à jamais, lui qui est le premier et le dernier, en qui toutes les nations sont bénies, qui détruit le diable et ses œuvres, lui écrase la tête et efface son image, par laquelle toutes les nations ont été maudites. Ainsi à cette image glorieuse et immuable du Fils de Dieu, le second Adam, qui n'est jamais tombé, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, qui est venu pour sauver la vie des hommes et non pour la détruire, je dis qu'à son image tous doivent être conformes, lui qui détruit le diable et qui a détruit la vie des hommes, parce qu'il ne voulait pas se conformer à leur religion, voie culte et foi fausse et changeante. Mais ni Christ ni ses apôtres, dans la Nouvelle Alliance, n'ont jamais détruit la vie de quiconque, ni dépouillé les biens de quiconque, Parce qu'ils ne voulaient pas se conformer à la voie, la religion, l'Église, la foi et le culte de Christ, mais s'ils ne voulaient pas être persuadés, ils les laissaient au jugement du Seigneur. Par conséquent, combien les hommes ont-ils dégénéré, depuis les jours des apôtres, loin de la guerre et des armes, de la doctrine, de la foi, du culte, de l'Église et de l'image des apôtres, auxquels ils étaient conformes, que ceux qui sont conformes à l'image du Fils de Dieu en jugent. Et ainsi, les gens s'étant égarés loin de l'Esprit de Dieu et de Christ, haïssant sa lumière et marchant d'une manière outrageante contre l'Esprit de grâce, n'étant pas conformes à l'image du Fils de Dieu en eux-mêmes, mais étant conformes à l'Esprit du monde en eux, qui convoitent jusqu'à l'envie, par lequel ils ont établi leur doctrine, commandements, ordonnances, voies et cultes, et ont crié « Conformez-vous, conformez-vous à eux », bien qu'ils ne sachent pas combien de temps leur voies, leur culte et leur religion subsisteront, ce qui n'a duré que. Et de cet esprit faillible sont venues toutes les persécutions et toutes les effusions de sang au sujet de la religion, ainsi que le dépouillement des biens, les emprisonnements et les bannissements, depuis les jours des apôtres, par ceux qui se sont égarés loin du même esprit et de la même puissance que ceux où étaient les apôtres, et donc loin aussi de leurs armes spirituelles. Et l'apôtre dit aux Galates, « Comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments du monde, auxquels vous voulez de nouveau être asservis? Vous observez les jours, les temps, les mois et les années. Je crains pour vous, de peur que je n'aie travaillé en vain à votre égard. » Galates 4, 10-11. Et l'apôtre ne qualifie-t-il pas ici ces choses d'éléments misérables du monde? Et l'apôtre n'a-t-il pas dit que, pendant qu'il était parmi les Juifs et sous ces éléments du monde, il était charnel, vendu au péché, Rome 7, 14. Et l'apôtre n'a-t-il pas dit que Christ était souverain sacrificateur, non établi selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable? Hébreux 7, 15, 16. Et encore, l'apôtre n'expose-t-il pas comment la première alliance avait des ordonnances mondaines, et avait des lumières et des lampes extérieures, et des services extérieurs qui consistaient en viandes et boissons, et diverses ablutions extérieures, et des ordonnances charnelles, et que ces choses leur furent imposées jusqu'au temps où viendrait le rétablissement. Hébreux 9, 1, 2, 10. Ainsi, l'apôtre ne qualifie-t-il pas de mondaines et charnelles toutes ces choses extérieures de l'ancienne alliance, vues par l'œil charnel, auxquelles les Juifs devaient se conformer sous l'ancienne alliance, et qui ont servi jusqu'au temps de la réformation par Christ, qui réforme les hommes hors de ces éléments et rudiments charnels et mondains, dans sa nouvelle alliance de lumière et de grâce, afin qu'ils soient rendus conformes à sa mort et à son image, et non conformes aux choses élémentaires du monde qui passent. Et Christ a dit que le monde le haïssait, qu'il n'était pas du monde, mais qu'il témoignait contre lui, et c'est pourquoi le monde le haïssait. Et il dit à ses disciples qu'il n'était pas du monde, comme lui n'était pas du monde, et qu'ainsi ils devaient être conformes à l'image de Christ et non conformes au monde. Et l'apôtre dit, « Le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, et la sagesse du monde est folie, et la figure de ce monde passe. » Ainsi, des gens qui sont conformes à l'image du Fils de Dieu, qui n'est pas du monde, peuvent-ils être conformes à la sagesse du monde et à ces modes qui passent, et à cette sagesse qui est folie, par laquelle ils ne connaissent pas Dieu? Et par conséquent, comme le Christ l'a dit, ceux qui sont du monde parlent du monde, mais n'est pas du monde celui à l'image duquel tout vrai croyant doit être conforme. Et Jean dit, « Quiconque est né de Dieu vainque le monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est votre foi, foi dont Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur. » Et il dit aux vrais chrétiens croyants, dans son épître générale, « Nous sommes de Dieu, et le monde entier est plongé dans le mal. » Et encore Jean dit, « Vous avez vaincu le monde, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, et ceux qui sont du monde parlent du monde, et le monde les écoute, et nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute, et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, à cela nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. » Ainsi, il est clair ici que Jean et la véritable Église du Christ étaient conformes à l'image du Fils de Dieu, et non au monde, ni à ses voies, ni à sa sagesse par laquelle ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils disaient qu'ils avaient la victoire sur le monde, et que leur victoire était leur foi, donc ils n'étaient pas prêts de se conformer à ce sur quoi ils avaient la victoire. C'est pourquoi ils ont souffert de la part du monde et de son esprit, pour n'être pas conformes à ses voies et à ses ordonnances, car l'Esprit de Dieu ne peut être conforme à l'esprit du monde, ni à son image, mais il conduit à être conformé à l'image du Fils de Dieu, dont l'image est l'éclat de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de la substance du Père. Le Seigneur nous a choisis pour être un peuple à lui, et nous a conduits par sa lumière hors des ténèbres, et par sa puissance hors de la puissance de Satan, et par son Esprit Saint, pur, la grâce et la vérité, que nous avons reçus de Jésus-Christ, afin que, par cela, nous le suivions, lui qui n'est pas du monde. Ainsi nous marchons en lui, qui est la voie nouvelle et vivante, par qui toutes choses ont été faites et créées, qui est notre repos, notre paix et notre salut, notre rocher, notre fondement et notre médiateur, qui fait notre paix entre nous et Dieu, Il est notre prêtre, prophète, berger et évêque de nos âmes, dans sa grâce, sa vérité, son évangile et son esprit, qui vient de lui. Par son esprit, nous sommes unis à lui. Par le Christ, avec sa lumière, sa puissance et son esprit, nous voyons au-dessus de toutes les voies, religions et formes de culte, et des églises que des hommes, déchus de l'esprit et de la puissance dans lesquelles étaient le Christ et ses apôtres, ont établi, auxquels nous ne pouvons nous joindre, ni marcher dans aucune de leurs voies, religions et cultes. Nous ne marchons que dans cette voie nouvelle et vivante, établie il y a plus de 1600 ans, et dans cette foi dont le Christ est aujourd'hui l'auteur et le consommateur, comme il l'était au jour des apôtres, et dans cette religion établie il y a plus de 1600 ans, qui est pure et sans souillure devant Dieu et qui garde des tâches du monde, et dans ce culte que le Christ a établi en esprit et en vérité qui vient par lui, qu'il a établi il y a plus de 1600 ans. Nous nous joignons à cette Église qui est parvenue à la Jérusalem céleste, et aux esprits des justes rendus parfaits, qui sont les pierres vivantes et la maison spirituelle, non pas une maison charnelle, avec leur Jérusalem charnelle, et leur sanctuaire et temples charnels et mondains. Et cette Église est un sacerdoce saint, offrant à Dieu des sacrifices spirituels. De cette Église, le Christ est le chef et l'époux céleste et spirituel, et ainsi leur prophète céleste, leur évêque et leur prêtre spirituel, qui vit pour toujours dans son Église. Et maintenant, nous les premiers Quakers avons été marqués comme étant papistes et jésuites, et d'inclination papiste. Astérisque, mais que le monde entier sache que nous ne sommes ni papistes ni d'inclination papiste, car notre religion, notre voie et notre culte, et la grâce, la vérité, l'esprit, la foi et l'évangile du Christ dans lesquels nous marchons et vivons, existaient avant le pape, les papistes et les jésuites, et avant leur religion et leur culte. Astérisque, la secte romaine enseigne qu'un homme est sauvé en menant une bonne vie. La secte romaine désigne des personnes comme saints selon qu'elles ont mené une vie extraordinairement bonne. Les protestants, conduits par Martin Luther, se sont emparés de plusieurs lettres de Paul, tout en rejetant les livres des Hébreux, de Jacques, de Jude et de l'Apocalypse, les tordant dans l'erreur pour former une nouvelle doctrine destructrice. Quiconque croit en Jésus est instantanément sauvé et est immédiatement un saint, sans absolument aucune œuvre nécessaire. Les Quakers différaient à la fois des protestants et de la secte romaine. Ils prêchaient la nécessité de la croix intérieure du renoncement à soi-même et de la repentance, telle qu'elle est suscitée par la voix et la lumière de Dieu au-dedans de leur cœur. Ainsi, les Quakers croyaient qu'il était nécessaire de travailler à leur salut avec crainte et tremblement, travail qui conduisait à la pureté et au fait d'être purifié de tout péché. Les œuvres des Quakers n'étaient pas des œuvres de la loi, sacrifices, sabbats, aliments, rites, cérémonies, jours, etc., mais des œuvres de la foi agissant par l'amour, que Paul disait essentielles. Galates 5, 6. Mais les protestants ne voyaient que ceci, les Quakers insistaient sur les œuvres, et c'est pourquoi ils furent accusés d'être des agents de la secte romaine. Et nous avons souffert au jour d'Olivier Cromwell, et au temps de son long parlement, et avant qu'Olivier ne fût protecteur, nous avons souffert de la part des papistes établis au temps de la reine Marie. Et nous avons souffert au jour des presbytériens, des indépendants et des anabaptistes, et maintenant de la part des épiscopaliens. Et la cause principale de toutes nos souffrances, infligée par tous ceux qui ont eu le pouvoir, était notre refus de reconnaître et de nous joindre aux voies papistes et jésuitiques, et aux reliques des papistes qu'ils maintenaient et admettaient parmi eux. D'abord parce que nous ne payions pas aux prêtres presbytériens, aux indépendants et aux baptistes et maintenant aux épiscopaliens, leurs dîmes, leurs comptes de Pâques, leurs redevances de la Saint-Jean d'été, et leurs droits funéraires, et autres choses semblables, ainsi que les surplis, les tentures de chair et les coussins, et les taxes pour la maison à clocher ou l'ancienne maison de messe, et les salaires des clercs, et autres services de ce genre. Or, le pape et les papistes n'ont-ils pas été les fondateurs de toutes ces choses, et non le Christ ni ses apôtres, et toutes ces choses ne sentent-elles pas la papauté? Car le Christ dit à ses ministres, qu'il établit et envoya prêcher, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et l'apôtre dit qu'il ne convoitait l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne, mais qu'il gardait l'évangile sans frais, et il s'éleva contre les enseignants cupides. Et le Christ dit, « Le temple extérieur devait être renversé, et il ne resterait pas pierre sur pierre, car il bâtirait, dans sa nouvelle alliance, un temple de pierre vivante, une maison spirituelle, dont les vrais chrétiens sont la maison. » Et Étienne et l'apôtre dirent, « Le trésor n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. » Et de plus, l'apôtre dit que les corps des saints étaient les temples de Dieu et du Christ, et de son Saint-Esprit. Ainsi, il n'était pas prêt de réparer ou de restaurer l'ancien temple et les maisons, et de les appeler églises, alors même qu'il disait, « Le trésor n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, mais leurs corps étaient les temples du Saint-Esprit. » Et ainsi le Christ prêcha ou prophétisa qu'ils seraient renversés, et les apôtres prêchèrent contre eux, et dirent, « Les corps des croyants sont les temples du Dieu vivant, deuxièmement. » Nous avons souffert parce que nous ne voulions pas amener nos enfants en bas âge et donner de l'argent aux prêtres pour les asperger, ni faire relever nos femmes, et parce que nous ne voulions pas nous marier avec le prêtre, lui apporter une bague à passer et lui donner de l'argent pour ce service. Et cela aussi n'a-t-il pas été tiré du pape, des papistes et des païens, qui se mariaient avec la bague, et non du Christ et de ses apôtres, pratique qu'ils n'ont jamais pu prouver ni établir par l'Écriture, à partir du Christ et des apôtres. Et aussi, nous avons souffert pour avoir rendu témoignage contre l'éducation de leurs prêtres dans les écoles et contre leur obtention de grades, comme bacheliers et maîtres essarts, docteurs en théologie, etc. Et contre leurs habits de veste blanche et de veste noire, et contre le fait d'être appelés par les hommes maîtres, comme les pharisiens orgueilleux, et d'être appelés seigneurs, comme les gentils. Et toutes ces choses ne viennent-elles pas du pape, des papistes et des païens, et non du Christ et des apôtres? Car le Christ interdit à ses ministres d'être appelés maîtres par les hommes, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, et vous êtes tous frères, et il dit qu'ils ne devaient pas exercer une domination les uns sur les autres, comme les gentils, et être appelés seigneurs, car ils ne devaient pas en être ainsi parmi eux. Et l'apôtre Pierre exhorta à paître le troupeau de Dieu, mais non pas à se comporter en seigneur sur l'héritage de Dieu, comme en 1 Pie 5:2. Dans le monde, il y a beaucoup de seigneurs, mais pour nous, un seul Seigneur Jésus-Christ par qui toutes choses ont été faites et un seul Seigneur Dieu, créateur de tout, et une seule foi et un seul baptême, et le Christ seul est l'unique baptiseur qui sauve. Et donc, comment le pape et ses évêques et cardinaux peuvent-ils dire qu'ils sont les successeurs de Pierre alors qu'on les appelle seigneurs? Ce que Pierre interdit à quiconque de ses successeurs d'être appelé seigneur, mais d'être des exemples pour le troupeau. Ainsi, en cela, il transgresse la doctrine et le commandement de Pierre et ceux du Christ qui a dit qu'il ne devait pas être appelé seigneur comme les gentils. Et le Christ a dit, ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Ainsi, il ne dit pas, ce que le prêtre joindra ou mariera avec la bague, mais ce que Dieu joint, que l'homme ne le sépare pas. Mais parmi les sectes susdites, les prêtres reçoivent de l'argent pour unir, et ils séparent aussi et prononcent le divorce, troisièmement. Parce que nous ne voulons pas nous incliner et ôter nos chapeaux, et que nous ne pouvons pas dire « vous » à une seule personne, mais « toi » et parce que nous ne voulons pas jurer du tout. Et tout cela ne vient-il pas du pape et des papistes, et non du Christ et de ses apôtres? Car où les a-t-on jamais vu jeter quelqu'un en prison pour ne pas ôter son chapeau devant eux, alors que tout genou doit fléchir au nom de Jésus? Mais l'apôtre ne dit pas que chacun doit fléchir le genou devant les apôtres ou le pape, ni qu'il faille se découvrir devant eux, car l'apôtre enseigna qu'ils doivent se découvrir en priant ou en prophétisant devant le Seigneur, parce que l'homme est l'image de Dieu. Mais il ne dit pas qu'ils doivent se découvrir devant les hommes, ni fléchir le genou devant eux, mais devant le nom de Jésus et devant Dieu le Père. Quatrièmement, et parce que nous ne pouvons pas jurer ni prêter serment, nous avons souffert et avons été jetés en prison. Et cela ne vient-il pas du pape, des papistes, des païens, et aussi des juifs parmi les chrétiens, et non du Christ et de ses apôtres? Car le Christ dit, « Ne jurez pas du tout, bien qu'ils eussent juré dans l'ancienne alliance, et dans les temps anciens, ils ne devaient pas jurer faussement mais véritablement, et accomplir leur serment au Seigneur. Mais le Christ, dans sa nouvelle alliance de grâce et dans son évangile, a dit, « Ne jurez pas du tout, mais que votre oui soit oui, et votre non, non, car tout ce qu'on y ajoute vient du mal. » Et l'apôtre Jacques dit, « Par-dessus tout, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, de peur que vous ne tombiez sous la condamnation. » Ainsi devons-nous suivre le Christ et les apôtres, ou le pape et ses papistes et jésuites, et les païens, les juifs, ou d'autres qui soutiennent leurs principes. Ainsi, dans la plupart des choses et des causes pour lesquelles nous avons souffert, ça a été pour avoir rendu témoignage contre la papauté et contre les inventions et traditions païennes et juives. Car les dîmes, les comptes de Pâques et les redevances de la Saint-Jean d'été, leur ancienne maison de messe et les salaires des clercs, avec leurs sermons funèbres prêchés et leurs droits funéraires et le relevage des femmes et l'aspersion des petits-enfants, et le fait de les marquer du signe de la croix et les parrains et marraines et leurs sermons et leurs prédications pour de l'argent et à l'aide du sablier, et leur formation de ministre dans les écoles et collèges, avec leurs titres de bachelier, maître et docteur, et le fait d'appeler les évêques grâce. Tout ce fatras, et bien davantage du même genre, ne vient-il pas du pape, des papistes, des païens ou des juifs, et non du Christ ni des apôtres? Et beaucoup de ces choses n'ont-elles pas été les principales pour lesquelles nous avons été emprisonnés et persécutés, et certains bannis? Et cela pour nous réunir dans des maisons, comme le faisaient les apôtres et les saints. Oui, le Christ lui-même tenait ses réunions sur des montagnes et prêchait depuis des bateaux. Oui, plusieurs milliers d'entre nous ont souffert l'emprisonnement et la confiscation de leurs biens, et certains ont été bannis au jour d'Olivet, et depuis, pour ne pas se joindre à ces choses, qui provenaient à l'origine des papistes ou des païens ou des juifs, et concernant ces pratiques, dont nous avons rendu témoignage contre elles, ils n'ont jamais pu les justifier par l'écriture du Nouveau Testament. Et donc, comment les presbytériens, les indépendants, les anabaptistes ou les épiscopaliens peuvent-ils nous marquer comme papistes ou d'inclination jésuitique, alors que nos souffrances, depuis 30 ans ou plus pour certains d'entre nous, ont été de ne pas nous conformer aux choses susdites qui venaient du pape et des papistes, des juifs et des païens. Et ceux qui vivent dans ces choses papistes, qu'ils ne peuvent justifier par l'écriture du Nouveau Testament, et qui pourtant disent que c'est leur règle, ceux-là sont eux-mêmes d'inclination papiste. Mais nous sommes les véritables chrétiens protestants, et dans la même puissance et le même esprit que les apôtres, et nous protestons contre tout ce que l'esprit apostat a établi, lui qui s'est écarté de cette puissance et de cet esprit dans lesquels étaient les apôtres. Ainsi, les doctrines, commandements, ordonnances et traditions que cet esprit d'erreur a établi, s'étant écarté de la puissance et de l'esprit dans lesquels étaient les apôtres, nous ne pouvons ni y toucher, ni y goûter, ni les manier, ni nous y joindre. Cinquièmement, toute l'observance des jours saints et l'institution de jours saints, comme Noël, la Chandeleur, la Saint-Michel, Pâques, la Pentecôte et leur carême, et le fait d'appeler leurs jours et leurs mois par des noms païens, comme on le voit dans leurs almanachs, ne vient-il pas du pape, des papistes, des païens et des juifs, et non du Christ ni des apôtres? Et n'avons-nous pas souffert l'emprisonnement et la confiscation de nos biens pour ne pas observer leurs jours saints, comme ils les appellent? Et n'était-ce pas l'œuvre et le labeur de l'apôtre d'arracher les gens à l'observance des jours, des mois, des temps et des années? Et ce qui entrait dans de telles choses, à savoir l'observance des jours, l'apôtre leur dit, et qu'ils craignaient d'avoir travaillé en vain pour eux. Par conséquent, comme je l'ai dit auparavant, comment quelqu'un peut-il, en vérité et en justice, nous marquer comme papistes, alors que nous avons souffert de votre part, vous qui vous appelez protestants, pour avoir renié une telle papauté que vous admettez, et que vous avez pillé nos biens pour que nous n'observions pas vos jours saints papistes et d'autres choses papistes? Et pourtant vous dites que l'Écriture est votre règle, alors que vous n'avez aucun commandement de ce genre dans le Nouveau Testament pour observer des jours, ni les choses susmentionnées, mais au contraire. Ainsi, pour avoir rendu témoignage et protesté contre de telles choses que vous ne tenez ni du Christ ni des apôtres, et qui n'ont pas été établies par la puissance et l'esprit dans lesquels étaient les apôtres, et pour avoir rendu témoignage contre les œuvres et les fruits de cet esprit égaré, nous avons souffert de votre part, vous qu'on appelle protestants, et de la part des papistes aussi. Ainsi, nos souffrances ont eu lieu parce que nous ne pouvions nous joindre à ce que vous teniez des papistes, des païens et des juifs, et non du Christ ni des apôtres. Je dis que nous, qui sommes de la maison de la véritable foi catholique, dans laquelle était l'Église au jour des apôtres, avons souffert de votre part et avons été marqués comme papistes, alors qu'en vérité nous sommes les véritables chrétiens protestants, rendant témoignage contre toutes les inventions papistes, païennes et juives, qui ont été établies par cet esprit qui s'est écarté de la puissance et de l'esprit dans lesquels étaient les apôtres. Ainsi, de même que Moïse, le serviteur, fut fidèle sur sa maison dans l'ancienne alliance et la loi des œuvres, de même le Christ, le Fils de Dieu, est sur sa maison spirituelle, dans sa nouvelle alliance de lumière, de vie et de grâce, maison dont nous sommes. George Fox concernant la conduite droite et bonne des saints en Christ et au ciel. Astérisque Fox et le roi Jacques employaient, conversation au sens de conduite. David dit, les méchants ont tiré l'épée et ont bandé leur arc pour abattre le pauvre et l'indigent, et pour tuer ceux qui ont une conduite droite, leur épée entrera dans leur propre cœur, et leur arc sera brisé. Psaume 37:14. Voici le jugement de David sur ceux qui abattent le pauvre et l'indigent, et qui tuent ceux qui ont une conduite droite. « Mais celui qui offre la louange me glorifie, dit le Seigneur, et à celui qui règle sa conduite comme il faut, je montrerai le salut de Dieu. » Psaume 50:23. Ainsi tous ceux qui veulent voir le salut de Dieu, vous devez d'abord veiller à ce que votre conduite soit bien réglée par la lumière, la puissance et l'Esprit de Dieu, car l'apôtre dit, « Par la grâce de Dieu nous nous sommes conduits dans le monde. » 2 Corinthiens 12. Ainsi maintenant, tous par la grâce de Dieu doivent voir leur conduite préservée de la méchanceté du monde, grâce qui apporte leur salut. Et l'apôtre dit aux Éphésiens que nous tous aussi, autrefois, nous nous sommes conduits selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de la pensée, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens 2:3. Et c'est pourquoi il les exhorte à vous dépouiller, quant à votre conduite précédente, du vieil homme, qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre pensée, et seulement à ce que votre conduite soit digne de l'Évangile du Christ, afin que vous demeuriez ferme dans un même esprit d'un même cœur, combattant ensemble pour la foi de l'Évangile. Car notre citoyenneté est dans les cieux, nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil, afin qu'il soit rendu conforme. Voir F82, fil 1, 27, 3, 20. Ainsi, ici les apôtres et les saints s'étaient dépouillés de leur conduite précédente selon le monde, eux dont la citoyenneté était dans les cieux, là où tous les vrais saints ou chrétiens ont leur citoyenneté. Astérisque citoyenneté ou manière de vivre ou conduite dans le ciel. Ceci est un témoignage quant à la conscience et à la vision de ceux qui sont dans le royaume étant au ciel. Ils ne voient plus le monde. Et l'apôtre exhorta Timothée et dit « Sois un exemple pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté, 1 Tim 4:12, ce qui est une bonne conduite à suivre. » Et l'apôtre dit aux Hébreux, Hébreux 13:5, « Que votre conduite soit sans cupidité, contentez-vous de ce que vous avez, car le Seigneur a dit qu'il ne vous laissera jamais et ne vous abandonnera jamais. » Et Jacques dit dans son épître générale, Jacques 3, 13-16, « Qui est sage et intelligent parmi vous. » Qu'il montre, par une bonne conduite, ses œuvres avec la douceur de la sagesse, car là où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a du désordre et toute œuvre mauvaise. Or, cette bonne conduite doit se manifester dans la pratique. Et Pierre, dans son épître générale, avertit l'Église d'être comme des enfants obéissants, ne vous conformant pas aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais comme celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, notez dans toute votre conduite. Puisque vous savez que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, reçus par tradition de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pie 3, 14, 15, 18-19. Et en 1 Pie 3, 1, de même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite chaste accompagnée de crainte. Ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils disent du mal de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils aient honte de ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ. 1 Pie 3:16. Ici, vous voyez que la conduite des vrais chrétiens était en Christ, ce que tous les chrétiens sont et doivent être, et ceux dont la conduite est en Jésus-Christ sont attristés et tourmentés par la conduite immonde des méchants, comme le juste l'eau l'était. 2 Pie 2, 7-8. George Fox, livre de Doctrine 6, suite retour à l'index doctrinal, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.